peux te présenter, chien ?
Bonjour, je m'appelle Franck Gauthier, je suis dirigeant d'une agence qui s'appelle Digital Corsair. On est une agence qu'on appelle de Growth Hacking. Voilà, ça fait maintenant 3 ans qu'on est installé. Alors nous sommes domiciliés en Bretagne et puis j'ai quand même mon collègue qui est lui sur la région de Lille.
D'accord, alors justement tu peux nous parler un petit peu de la démarche Growth Hacking,
ouais.
Avec 3 étapes.
Alors le Growth Hacking en fait c'est l'accompagnement qu'on peut faire des entreprises sur la phase de commercialisation de leurs produits. Donc on les accompagne sur on va dire 3 étapes, qui est la phase Discovery, la phase Build et la phase Growth. La phase Discovery, c'est la phase compréhension du marché, comment on peut créer le marché. Il y a la phase Build qui, lui, est plus dans l'idée, on fait un MVP, on regarde comment ça se passe. Donc là, on est plus dans l'idée d'essayer de déjà valider le problème market fit et ensuite le product market fit. Donc savoir si le produit correspond bien à l'offre. Et la phase Growth, là, c'est plus sur l'idée d'attirer du trafic, faire de l'acquisition. Avec des démarches un peu à la fois légales, peut-être des fois un peu
grises.
Ouais.
Il y a 3 niveaux de growth hacking. Il y a le white où on fait des choses tout à fait légales,
ouais.
L'automatisation classique. Il y a le gray où on est à la limite de ce qui est autorisé. En fait, on joue un petit peu avec les règles. Et le black où là, on est bien sûr en dehors des règles puisqu'en fait, on utilise des techniques qui sont normalement pas autorisées par les CGMU ou qui sont.
Ouais, voilà. C'est ça.
Donc bien sûr, toi, tu restes dans le white et le gris check.
Ouais, bon, des fois on va dans le gris foncé un peu quand même. C'est souvent les gris foncés qui fonctionnent le mieux parce que c'est celles en fait que les concurrents n'utilisent pas. Donc c'est souvent celles qui sont porteuses en fait.
Voilà. Alors justement, on va commencer plutôt dans le truc de base où on est plus dans le gris clair et le white, c'est le product fit et vraiment voir si le produit s'adapte au marché. Donc c'est la première étape.
Ouais.
De ton accompagnement.
Ouais, ça c'est souvent en fait ce qu'on accompagne le plus dans les startups. Alors je peux donner des exemples, là on a accompagné une startup qui lançait un produit sur la facturation. Donc l'idée c'était de savoir comment se comportait le visiteur sur le site. Donc on met souvent des tracking, on fait de l'analyse en fait prédictive sur le site. J'utilise, ça dépend en fait de ça dépend aussi du client. J'aime bien travailler avec VWO en fait qui est assez complet, donc un peu cher mais qui est vraiment pas mal et surtout en fait il ralentit pas le site. Il y a des trucs comme Ojar qui sont assez connus mais lui ça ouais. Donc ça j'aime bien donc voilà. Et puis sur tout ce qui est analytique, alors, je sais pas si tu connais des trucs comme si tout le monde connaît les Mixpanel, les choses comme ça.
Mais qui se trouve un peu cher et un peu complexe.
Ouais.
Et très orienté startup.
Mais alors on est souvent dépendant quand on prend nos outils, on est dépendant aussi de la startup qui en fait, puisque faut qu'eux ils aient accès à l'outil. Donc des fois en fait il y a un décalage en fait de la compréhension. Il y a le très classique Google Analytics qu'on peut enrichir, mais on aime bien partir avec le Mixpanel qui lui en fait a un outil analytique sur l'ID et non sur le cookie comme Google Analytics. Donc ça c'est quand même plus sympa. L'analyse tracking, c'est super important en fait. C'est souvent là en fait qu'on voit qu'il y a des objections de comportement vis-à-vis du produit. Donc comme je dis souvent, il y a souvent des startups qui viennent nous voir en disant j'ai un problème d'acquisition, mais en fait leur problème c'est souvent la conversion. Donc ça sert à rien de mettre la gomme sur l'acquisition si derrière vous convertissez pas. Donc c'est premier focus, c'est ça.
C'est vrai que souvent on se dit je vais avoir plus de visiteurs, sauf qu'on a un taux de conversion pourri. Et c'est ce que j'ai fait moi il n'y a pas longtemps sur mon site, sur un des sites que j'ai pour la génération de leads, c'était vraiment ça, c'était le problème de conversion.
Ouais, mais c'est super important, mais en fait. Quand tu dis ça aux gens ou aux entrepreneurs, généralement ils sont persuadés que non, leur site va marcher et tout. Mais en fait, quand tu leur mets les métriques devant le nez, non. Donc là, ça les offusque. Mais voilà, l'avantage du growth hacking, c'est qu'en fait, c'est du concret, c'est des données. C'est pas non, ton produit il va pas marcher. Non, c'est on fait un peu de trafic et on regarde comment ça se comporte et au moins les données parlent quoi.
Ça, c'est la première étape.
Ouais.
On vérifie un petit peu la conversion du site, l'adaptation, etc.
Ouais. Et puis donc après, il y a l'acquisition plutôt. Donc là, aller chercher du trafic. Donc, alors, j'aurais tendance à dire on peut utiliser toutes les méthodes traditionnelles qu'on utilise dans le marketing, Google, AdWords, tout ça. Bon, nous, notre valeur ajoutée, elle n'est pas là. Notre valeur ajoutée, elle est surtout ces deux choses, comme tu disais, tout ce qui est un peu gris clair.
Alors, un exemple un petit peu, tu me parlais tout à l'heure accompagné.
Oui, on accompagne en ce moment une startup sur San Francisco, assez connue. Donc eux, ils recherchaient, en fait, ils sont passés sur un modèle, ils étaient sur le B2C, ils sont passés sur un modèle B2B. Donc on a mis en place des systèmes d'accompagnement, enfin d'automatisation sur LinkedIn. Donc on a des robots, on a créé des robots en fait qui permettent d'automatiser ça. Et là c'est plutôt sympa, il arrive à capter 2-3 leads par jour sans rien faire en fait.
Avec des demandes de contact personnalisées, ouais. Un message, bon après même un message personnalisé, ensuite un second message avec une URL ou une proposition de tarif, d'échangement d'un
non.
Truc comme ça, non. Ah, c'est pas le classique hein.
Non, c'est demande de contact et à J plus, enfin H plus X heures, il y a une demande de il y a un message. Et normalement, ce message doit juste convertir. Donc voilà la stratégie qu'on a mis en place sur LinkedIn. Donc en fait, on automatise les demandes de contact. Et après, on automatise les messages privés. Alors, il faut savoir que sur LinkedIn, alors là, on est vraiment dans le gris très, très français. Hein. LinkedIn a des algorithmes sentinelles. Donc on ne peut pas automatiser comme on voudrait. On ne peut pas faire dire, on fait des relances, machin. Alors, si, enfin, même si dans la pratique, on pourrait le faire, mais dans le volume, en fait, on se prend des catchas de LinkedIn, on voit, on s'est bloqué le compte. Donc, on est assez soft, en fait. Et j'aurais tendance à dire, un message, normalement, devrait réussir à convertir. S'il ne convertit pas, c'est qu'il y a un souci, peut-être, avec l'offre.
Donc, soit c'est pas assez bien ciblé sur les bons profils,
voilà.
Soit c'est le message qui n'est pas bon.
Voilà. Donc, en fait, là, on est pareil, on est en termes de groove hacking, c'est-à-dire qu'on teste AB les messages. Donc, on itère, en fait, le message toutes les semaines. Là, ça fait 4 semaines et ça a l'air de plutôt bien tourner, il est plutôt content. Voilà. Donc, nous, on s'arrête juste à la phase d'automatisation. Lui, il récupère les leads et puis lui, il vend.
Ouais, il gère.
Et ça, voilà. Donc ça, c'est un exemple que je donne, mais c'est quelque chose qu'on fait aussi pas que pour les startups. Hein. On l'a fait pour un expert comptable, par exemple. Alors, expert comptable, quand tu chopes un client, un expert comptable, c'est pas 300 euros. Quoi. Le client reste 10, 20 ans. Donc là, on l'a fait, on lui a chopé 16 leads en 6 mois. Quoi. Il était super content, c'est une presta qui coûte quelques centaines d'euros.
Mais là, tu cibles quoi? Tu cibles des startups, des petites entreprises? Parce que c'est plus compliqué pour
ouais.
Les experts comptables. Non. Souvent, ils n'ont pas un problème d'avoir plus de clients, mais des plus gros clients.
Bah là, en fait, il faut cibler les porteurs de projets ou les gens qui ont une envie de créer une entreprise. Parce qu'un expert comptable, le problème, c'est que si tu cibles quelqu'un qui a déjà un expert comptable,
ouais,
il sert souvent de lièvre, en fait.
Tu
dis, bah tiens, je vais l'interroger pour faire baisser mon prix de mon autre expert comptable. Donc, il faut chercher du client qui est en phase de création ou en phase de réflexion. Donc, le ciblage est plutôt simple, en fait. Mais ton marché est plus petit. Quoi.
D'accord. Alors, tu me disais que tu utilisais comme système de bot un truc un peu évolué, comme tu disais. Il y a pas mal de code et tout ça.
Ouais. On utilise ZenoPoster, qui est un outil qui permet de... En fait, ZenoPoster, à la base, a été créé pour tout ce qui était dans le SEO, pour faire du scrapping, des choses comme ça. Mais l'outil est tellement puissant, alors c'est un truc russe, hein. Les Russes, c'est souvent les meilleurs. Tu peux quasi tout automatiser avec ZenoPoster. Tu peux même casser les captchas, tu peux même créer des systèmes de validation SMS avec. Enfin, c'est hyper puissant, mais par contre, il faut maîtriser la bête, quoi. Oui, donc un autre exemple, dans le secteur du bâtiment, un client qui recherchait à faire un site internet assez facilement. Donc l'idée, c'était qu'il avait sur un autre site externe qui n'était pas à lui, donc toute une base de fiches qu'il voulait reproduire sur son site. Donc on a créé un bot qui allait scraper l'autre site et qui créait à la volée toutes ces pages. Donc l'intérêt du truc, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait une mise à jour qui était faite sur l'autre site, hop, ça mettait à jour sur son site.
Et ainsi, comme ça, tu crées des mini-sites sur des thématiques, très simplement, voilà. Sur le fond de la tête, avec des contenus qui soient vraiment sur les bons mots-clés, etc.
Voilà. Alors ça, c'est une technique qui est issue un peu du monde le plus hacking qui soit.
Et comme c'est des données publiques, ça va.
On est
encore dans le légal. C'est juste l'automatisation qui a changé.
Voilà. Mais ça, c'est issu en fait de tout le secteur pornographique où en fait ils sont très très forts pour faire ça, en fait, créer des sites à la volée pour créer du trafic et créer du business avec les pubs.
Bon. Alors, si on veut en savoir plus sur toi et Digital Corsair, on va sur quel site internet?
Eh ben, on va sur digitalcorsair.com. Sinon, vous me trouvez sur LinkedIn aussi, sur Franck Gauthier. Je suis assez accessible sur LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un message. C'est pas un bot qui va répondre sur LinkedIn. Hein. Sur les demandes personnalisées, c'est vraiment moi qui réponds. Ne vous inquiétez pas. Voilà, tout simplement.
Bon, bah, merci, à bientôt.
Merci.